leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ, toute cette semaine à Alger. Hors-champ ce soir en compagnie de Leila Aslaoui Hamadi. Leila, c'est difficile de vous présenter parce que vous avez plusieurs vies. Vous avez été magistrate pendant longtemps. Vous avez été, et vous l'êtes toujours, enseignante à l'université d'Alger. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez publié de nombreux livres, à la fois des livres pour décrire la situation de la femme en Algérie. Je pense notamment à Coupable avec un S, une série de portraits de femmes de différentes générations. Vous avez aussi écrit des livres autobiographiques, dont l'un très émouvant sur votre propre mère, sur laquelle on va, j'espère, revenir. Vous avez été ministre aussi de la jeunesse et des sports, de la solidarité nationale. Vous continuez à défendre les idéaux de justice, de liberté, à être une résistante. Vous avez perdu votre mari dans des conditions tragiques, puisqu'il a été assassiné. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes à Alger, il y a eu la veille une manifestation, ce qui est très rare puisqu'elles sont interdites, une manifestation contre Charlie Hebdo. Et dans un journal auquel vous collaborez régulièrement, qui s'intitule donc Le Soir, vous publiez une page entière qui s'intitule Charlie Hebdo, tragédie et cafouillage. Et je crois que cette page est très importante pour définir ce que vous, peuple algérien, et vous, algéroise, vous ressentez. D'abord, cette interpellation que vous dénoncez de la part des autorités françaises aux musulmans.
Juste une petite précision, je n'enseigne plus pour, rétablir les faits. Passer l'état de sidération, parce que pour ma part, et je ne suis pas la seule, beaucoup de personnes ont réagi comme moi, nous avons été absolument stupéfaits, sidérés, l'émotion était très très forte, parce que ça nous a replongé dans les années de terrorisme islamiste que nous avons vécu. Et donc, passé ce moment-là, j'ai été personnellement très fortement interpellée lorsque j'entendais sans cesse les médias dire « il faut que les musulmans se mobilisent, il faut que les musulmans participent à la marche, il faut que les musulmans condamnent ». On a vu des imams, je ne les connais pas, donc je ne me permettrai pas de porter de jugement, mais j'ai considéré très sincèrement qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la tragédie par les réponses qu'ils faisaient. Parce que dire ce que nous avons maintes fois entendu à un pays en état de choc, parce que la France était en état de choc, et ceux qui ressentaient cela sur le plan émotionnel l'étaient également, l'islam est une religion d'amour, l'islam est une religion de tolérance, sincèrement, ce n'était pas les réponses à faire. Donc, passé cet état-là, je me suis dit, il faut absolument rétablir la vérité et dire qu'il s'agit là d'une dérive d'abord sémantique, mais d'une dérive politique tout court, parce que musulman, ce n'est pas une nationalité. Il s'agit de personnes qui vivent en France depuis fort longtemps, peut-être même dont les parents sont nés ou en tout cas ont vécu en France. Donc ce sont des personnes qui sont françaises et ce sont des personnes peut-être naturalisées françaises pour d'autres. Et par conséquent, il était tout à fait légitime de notre part d'attendre simplement qu'on dise que tous ceux qui sont contre ces actes barbares se mobilisent et participent à la marche. Et là, on fait appel à la nationalité, voire à la citoyenneté du monde. Parce que, je le dis dans l'article d'aujourd'hui, je n'étais pas à Paris, mais si j'avais été à Paris, j'aurais participé à la marche. Non pas en tant que croyante ou pas croyante, ça n'a rien à voir, c'est une affaire privée, mais en tant que, tout simplement, citoyenne du monde qui se reconnaît dans les valeurs républicaines.
Alors, vous écrivez, Laïla, musulman égale nationalité citoyenneté, point d'interrogation, islam égale nationalité nouvelle, oui, point d'interrogation.
Oui, ça m'a vraiment interpellée, parce que, si vous voulez, par exemple, monsieur le Premier ministre Manuel Valls, donc Premier ministre français, devant l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup apprécié son discours, mais il a dit à un moment donné qu'il avait un ami musulman qui avait honte. Cet ami musulman est certainement français, je suppose. Il aurait pu dire « j'ai un ami français qui a été terriblement touché dans ses croyances de musulman ». J'aurais mieux compris, voyez-vous. Mais là, si
Vous pensez qu'il y a une stigmatisation hypothétique communauté musulmane au détriment de l'intégration d'une citoyenneté pleine et entière.
Peut-être n'était-elle pas délibérée. Hein, je n'irai pas jusque-là. Peut-être, si vous voulez, c'est le langage habituel, les musulmans de France. Mais cependant, oui, aujourd'hui, ils sont sans doute stigmatisés parce que, si vous voulez, la personne qui n'a aucune culture sur les croyances, sur l'islam, peut faire très vite un amalgame, et je pense aux extrémistes, parce que les extrémistes vont se retrouver d'un côté comme de l'autre. Et donc, les musulmans sont stigmatisés. Et c'est dommage, parce que ce sont des personnes qui n'ont cessé de dire « on condamne, l'islam ne dit pas ». Mais ce ne sont pas des réponses à la hauteur de la tragédie. Il fallait dire que les Koulibaly, les Kouachi, etc., n'ont absolument aucune religion, aucune croyance. Ils ont été robotisés pour haïr, surtout. Et haïr le juif, haïr le chrétien et haïr même le musulman, puisque nous avons eu, durant la décennie noire, nous avons eu des imams qui ont été assassinés, précisément parce qu'ils ne pensaient pas comme des intégristes. L'intégrisme n'est pas une opinion. L'extrémisme n'est pas une opinion, l'intolérance n'est pas une opinion. C'est ça qu'il faudrait que les musulmans de France, je reprends l'expression, disent très haut. On dirait qu'ils sont frileux. Voilà ce qui me gêne.
Lorsque le frère du policier Ahmed Beramet a pleuré, l'image des 6 jeunes policiers assassinés à la rue Bouzrina à Alger le 10 février 1992 a refait surface. Les premiers d'une longue liste. Lorsque la mère de la jeune policière tuée à Montrouge par Koulibaly a éclaté en sanglots, c'est Karima Belhadj qui m'est apparue, une policière du service social assassinée en 1993 par le terroriste islamiste. Lorsque les 4 otages à la fleur de l'âge étaient sur le point d'être mis sous terre dans leur pays d'origine, l'image des jeunes scouts déchiquetés par une bombe dans un cimetière à Mostaganem le 1er novembre 1994 m'a rappelé à son « bon », entre guillemets « bon » souvenir. « La mort est toujours amère », dit l'adage arabe de chez nous.
C'est vrai, on le dit, mais en plus, là, elle est injuste. Là, elle est injuste, parce que au nom de quoi mérite-t-on une mort aussi tragique? Simplement parce que l'on est EST et qu'on ne fait rien, quoi. On ne fait rien. Je ne connaissais pas les journalistes de Charlie Hebdo. Néanmoins, si vous voulez, tout le monde a témoigné. Tous ceux qui connaissaient, par exemple, Cabu, ont témoigné que c'était un homme d'une générosité extraordinaire. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que l'on fait quelque chose que l'extrémisme élimine, c'est tout simplement parce qu'on est. Et quelqu'un qui prétend détenir la vérité suprême, quelqu'un qui prétend qu'il a raison, n'attendez pas autre chose que de l'intolérance. Et l'intolérance est insupportable, il faut la combattre.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez vécu cette décennie sanglante Et comment et pourquoi et dans quelles circonstances avez-vous accepté d'être ministre ?
Alors, ministre, je commencerai par cela. Moi, j'étais magistrat. Hein. J'étais dans mon petit palais de justice. J'étais loin du sérail, loin de la politique, parce que ça ne fonctionne même pas comme dans certains pays, dont la France. C'est-à-dire que nous n'avions même pas de syndicats. Nous n'avions pas le droit de militer d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, bon, j'étais tenue à ce que l'on appelle l'obligation de réserve. J'avais mes opinions, bien entendu, mais pas le droit de les exprimer au grand jour. Et donc, M. Rosalie m'appelle. J'étais au cabinet de l'ex-ministre de la Justice, M. Benflis, et il m'appelle directement, sans passer par mon ministre. Et donc, il me dit « Je veux vous voir ». Et quand je le rencontre, il me dit simplement ceci. Bon, l'Algérie, c'était en 91, donc c'était déjà des moments très, très, très difficiles. Il me dit, j'ai été chargé par le président de préparer des élections législatives, donc mon équipe sera chargée de cela, et uniquement de cela. Il se pourrait qu'après les élections législatives, le gouvernement soit changé. Donc, vous pouvez rester 6 mois, vous pouvez rester 8 mois. Est-ce que vous acceptez ? Parce que les circonstances sont difficiles et je fais appel à des gens qui accepteraient de venir dans mon gouvernement. Et il me propose la jeunesse et les sports. De toute façon, c'était ce qu'il restait parce que tous les autres postes avaient été pourvus. Et il me dit, j'ai surtout envie de mettre une femme au sport. Et donc, j'ai dit oui, sans trop savoir pour autant où j'allais me lancer, parce que pour moi, franchement, c'était l'inconnu. Et donc, c'est dans ces circonstances-là, c'était vraiment une période difficile. Et je peux vous assurer, sans prétention aucune de ma part, qu'il y a des gens qui refusaient des postes ministériels à l'époque. Hein. Donc, si vous voulez, franchement, c'était très difficile. Voilà comment j'ai accepté ce poste. Par la suite, comme vous le savez, bon, le fils a remporté les élections législatives, donc je faisais partie.
Alors, il faut peut-être expliquer les circonstances, parce que certains citoyens algériens aujourd'hui contestent cette victoire.
Oui, je fais partie de ceux-là. Parce que, si vous voulez, je ne vous dirai pas qu'à l'époque, il n'y a pas eu un vote sanction, ce serait un mensonge, mais très sincèrement, il y a eu une fraude extraordinaire, parce que, ayant remporté les élections locales auparavant, communales, si vous préférez, auparavant, ils avaient les communes entre leurs mains et c'est dans les communes que l'on prépare des élections législatives. La preuve en est, c'est que nous avons été très nombreux, et j'en fais partie, à n'avoir pas reçu notre carte de vote, par exemple. Autre exemple familial, celui-ci. J'ai perdu mon père en 1952. Et maman reçoit la carte de son mari, dont elle était veuve depuis 52. Et s'il vous plaît, très bien libellée en son nom, prénom, l'adresse, etc. Et le jour du vote, parce qu'elle ne se laissait pas faire, elle est allée en leur disant « Moi, je viens voter, mais mon mari, ça fait longtemps qu'il est mort. Pourquoi vous m'avez envoyé la carte ?» Bon, grâce à Dieu, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de la confisquer. Parce qu'après, ça m'a rendu service à moi. Et donc, ils lui ont tout simplement dit, mais c'est pas grave, l'Hajja. L'Hajja, c'est un titre honorifique quand quelqu'un part à la Mecque. Et puis souvent, on le dit aux personnes âgées. C'est pas grave, tu peux voter pour lui. Toi, tu peux le représenter, il n'y a pas de souci. Bon, elle a pas voté. Et par la suite, elle m'a remis cette carte. Et quand nous faisions des tournées de sensibilisation, je parle des femmes notamment, durant les années de terrorisme, pour expliquer ce qui se passait dans notre pays, parce qu'on était très très seuls, donc il fallait expliquer, et bien cette carte m'a rendu service, je l'ai exhibée un jour au cours d'une conférence, j'ai dit voilà comment il a eu les élections. Ce n'est qu'un exemple entre autres. Bon, l'histoire également, il y a eu un autre moyen de fraude, c'est que les gens totalement analphabètes, on les faisait rentrer avec un monsieur barbu qui votait pour eux. Donc vraiment, non, la fraude a été massive. Ils avaient les écoutes téléphoniques dans les différentes préfectures que nous appelons, nous, les wilayas, dans les communes. Donc la fraude a été massive. Ils n'ont pas remporté les élections législatives, ils ont fraudé. Donc par la suite, si vous voulez, j'ai fait partie du gouvernement donc, qui a organisé ces élections. Pourquoi les a-t-on organisées? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que, de toute façon, tout laissait à penser qu'il y aurait peut-être un vote sanction, sans compter les opérations caritatives qu'ils faisaient dans les quartiers populaires, les denrées alimentaires qu'ils distribuaient, l'argent qu'ils distribuaient. Tout laissait à penser, n'est-ce pas, que, bon, il y aurait certainement une mauvaise surprise. Par la suite, il fallut se prononcer sur arrêt ou pas du processus électoral. Et c'est là qu'ont commencé les ennuis, parce que tout le monde, sous d'autres cieux, n'était pas d'accord pour que l'on arrête ce processus électoral qui, pour nous, était salutaire de toute façon. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont pris position clairement en faveur de l'arrêt du processus électoral, en disant simplement que, de par le monde et à travers l'histoire, l'extrémisme avait remporté les élections pour en faire quoi ? Pour plonger l'Algérie dans un chaos, nous aurions aujourd'hui sans doute un État théocratique. Donc c'était vraiment pas souhaitable. Et à partir de là, si vous voulez, j'ai pris de plus en plus de positions claires, tranchées. Je m'exprimais dans la presse, je m'exprimais à la radio. Et c'est sans doute, non, c'est pas sans doute, c'est sûr que mes ennuis ont commencé à cause de cela, quoi. J'ai été menacée, ma famille était menacée. Bon, nous avons eu, comme beaucoup, beaucoup d'autres gens, les appels téléphoniques menaçants à 3 heures du matin, à 2 heures du matin. Et surtout le 13 mars 1994, parce que les choses se sont beaucoup, beaucoup compliquées, la police est venue me chercher à 7 heures du matin. D'abord, je ne vous dis pas parce que j'étais en ville dans un appartement, hein, j'étais pas. Donc avant d'ouvrir la porte, c'est l'horreur, l'horreur, vous ne savez pas, là pour le coup je dirais vous ne savez pas qui est qui, oui. Donc on me disait « Shorta, la police », mais je n'arrivais pas à ouvrir ma porte. Mon époux n'était pas à la maison, il était 7 heures du matin. Et puis je dis naïvement, parce que même les autres auraient pu me faire le coup avec une... Je dis « glissez votre carte professionnelle sous la porte ». Et puis, bon, j'y ai cru. Donc c'était la police, grâce à Dieu, qui m'ont dit « Madame, vous prenez vos affaires, c'est-à-dire votre sac à main, et vous venez avec nous. Vous ne restez plus, l'étau se resserre ». Et je dis, oui, mais franchement, des fois, si vous voulez, on n'est pas à la hauteur des situations. Et je dis, là, maintenant, j'en ris. Je dis, ah non, 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 il faut que j'attende quand même mon époux, il faut que je lui dise, il faut qu'on en parle. Et le policier me dit, celui qui dirigeait l'opération, madame, vous partez. Et si vous ne partez pas, nous allons vous faire partir par la force. Et donc, on m'a mis dans la fameuse citadelle du Club des Pins, que je déteste, que j'ai détestée, parce que c'était vraiment une citadelle fermée. Mais j'y suis restée 6 ans à cause du terrorisme. J'étais obligée. Et mon époux a été assassiné le 17 octobre 1994.
Donc, il faut préciser que le Club des Pins, c'est un quartier d'Alger qui était entièrement surveillé par la police.
C'est ça.
Et où étaient la plupart des personnes qui étaient menacées par le fils.
Pas forcément, hein, je vous dirais, pas forcément. Il y avait des personnes plus ciblées que d'autres. Mais disons qu'on mettait à l'abri ceux qui étaient censés peut-être faire l'objet d'un attentat ou... Et donc, si vous voulez, j'étais sous protection policière. Ça aussi, c'est très, très, très ennuyeux. Très ennuyeux, parce que là, pour le coup, on prend conscience de ce qu'est la liberté. Et puis, nous étions en France en septembre 1994, parce qu'il faut que je vous dise que ce qui a mis le feu aux poudres et ce qui a accéléré les menaces et sans doute le projet d'éliminer l'un ou l'autre, hein. C'est que en septembre 1994, j'apprends que le pouvoir en place, donc c'était M. Zeroual qui était président d'État, j'apprends qu'il négocie avec les ex-leaders du FIS en allant les voir en prison. Et qu'ils négocient leur libération contre leur reconnaissance claire, précise, qu'ils condamnaient le terrorisme. Et sachant que de toute façon, ils ne le feraient pas, j'ai trouvé cette approche de négociation avec des anciens du FIS qui, il faut le dire, sont responsables de tout ce qui s'est passé parce qu'eux sont encore vivants, mais que de jeunes ont-ils envoyés à la mort, au maquis, que de jeunes ont-ils armés, au moins idéologiquement. Et donc, je ne comprenais pas et j'ai démissionné. J'ai fait application de la règle de M. Chevènement. Quand on n'est plus d'accord, etc., etc., on se tait. Soit on se tait, soit on démissionne. Donc j'ai démissionné et je pense que ça a vraiment mis le feu aux poudres. Et après cela, nous sommes allés en France pour quelques jours de vacances chez des amis pour décompresser parce que la pression était très, très forte. Et mon mari est rentré avant moi. Il est rentré donc le 16 octobre et le 17, il a été assassiné à l'intérieur de son cabinet. Et voilà, et le 18, je suis rentrée donc pour constater qu'il n'était plus là. Donc voilà, non, ça a été dur. Mais en même temps, si vous voulez, très sincèrement, j'ai eu le choix, grâce à des amis que j'ai toujours, de rester en France. Hein. Mon souci, ce fut de mettre à l'abri mon fils, parce que j'ai tout d'un coup pris conscience que, bon, lui aussi, il pouvait passer et subir le même sort que mon époux. Donc, je l'ai fait inscrire à l'école de journalisme de Lille, parce qu'il avait amorcé quelques années ici à l'école des études d'information et de communication. Je l'ai fait inscrire à l'école supérieure de Lille. De ce côté-là, j'étais tranquille. Et des amis m'ont dit, tu ne retournes pas, tu restes en France. Et si vous voulez, c'est posé pour moi le dilemme suivant. Je me suis dit, en fait, le terrorisme ne tue jamais les vraies victimes. Les vraies victimes, ce sont nous, les vivants. Si nous nous taisons, si nous baissons les bras, ça veut dire qu'il aura gagné. Et là, j'ai dit à mes amis, non, je rentre et je continue. Et c'est là où j'ai continué. J'ai écrit, je me suis exprimée. Disons que... ils ne m'ont pas réduite au silence. C'est vrai, ils m'ont enlevé mon mari, mais ils ne m'ont pas réduite au silence. Et pour moi, c'était très important. C'était pour moi à la fois un combat de femme et un combat de victime aussi, enfin, par ricochet, parce que je me disais, il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils m'ont eue. Donc, toutes les occasions pour moi étaient bonnes pour m'exprimer.
Et la famille de votre mari vous en a voulu ?
Oui, oui. Ça a été pour moi le gros chagrin, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'ils avaient compris. Et bon, j'étais responsable de la mort de mon mari. Mais vous savez, bien sûr, passer l'émotion, passer la colère, parce que c'est injuste, c'est vraiment injuste. Passer aussi la peine. J'ai essayé aussi de comprendre, si vous voulez, je crois que dans des événements aussi tragiques, il faut toujours un bouc émissaire. Il faut toujours un bouc émissaire pour expliquer son malheur, pour expliquer son chagrin, pour un petit peu argumenter, pour trouver un sens. Je crois que c'est ça. Je crois que ma belle famille voulait donner un sens à ce qui lui arrivait. Or, il n'y a pas de sens à rechercher. Mon époux était vraiment quelqu'un avec lequel j'ai absolument tout partagé, que ce soit dans ma carrière, que ce soit dans mes convictions. Et je me souviens, le jour où j'ai décidé de démissionner, je lui ai dit je pars, c'est fini. On a rédigé la lettre de démission ensemble, parce qu'il avait une très belle plume. On l'a rédigé ensemble. Bon, ça je ne peux pas le dire aux gens, parce qu'ils ne sont pas obligés de me croire, et pourtant c'est vrai.
Et comment avez-vous vécu donc toutes ces années de cette décennie sanglante ? Je crois que vous avez, comme certaines femmes ici à Alger, formé des associations pour venir en aide à des personnes, à aller sur le terrain.
Alors, au début, je ne vous cache pas, bon, ça s'est fait spontanément. Hein, on n'était pas tellement organisé. Donc, on a créé une petite association d'aide aux victimes. Ensuite, le gouvernement de l'époque de M. Belaïd Abdeslam, qui a pris la suite de M. Rosali, a jugé qu'il y avait peut-être des féministes de gauche, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait Khalida Messaoudi, il y avait d'autres dames partageant les mêmes convictions. Donc, évidemment, c'est dangereux. Et il a créé sa propre association, Association nationale des familles des victimes. Et là, nous nous sommes retirés. Mais si vous voulez, au début, par exemple, si je vous dis qu'on ne savait même pas comment faire et quoi faire, c'était des actions symboliques, par exemple. Quand les policiers ont commencé vraiment à se faire assassiner, mais les uns après les autres, on prenait des fleurs, des bouquets de fleurs, donc des femmes avec plein de bouquets de fleurs, et nous allions dans les commissariats offrir une fleur à chaque policier. Ça, je vous dis cela en 92, hein, 92, parce que eux, les pauvres, ça a commencé tôt pour eux, ça a commencé en 92. C'était ça, voyez-vous, des petits gestes. On s'arrêtait à des barrages, on distribuait à l'armée, enfin aux jeunes appelés, des paquets de cigarettes. On ne savait pas comment faire, c'était tellement inattendu. Il y a toujours qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, bon, on s'est organisé, c'est-à-dire que après nous avons fait des tournées beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus importantes à l'étranger surtout, parce qu'il nous fallait des amis qui comprennent ce qui se passait chez nous. Nous avons eu mais les généraux aussi, c'est pas très clair, eux aussi ils tuent, le GIA c'est une création de l'armée, enfin l'horreur. C'est...
Vous avez eu l'impression de ne pas être comprise par la communauté internationale et plus particulièrement par les Français?
Oui, parce que si vous voulez, c'est surtout là que nous avons eu beaucoup, beaucoup d'opposition. C'est vrai qu'il y avait une communauté algérienne infiltrée par les islamistes algériens qui avaient trouvé refuge donc dans les pays européens, voire aux États-Unis, comme Anwar Hedem. Et donc, si vous voulez, ceux-là aussi ne perdaient pas leur temps, faisaient une propagande. Et il faut le dire, nous étions totalement nuls en communication. Au début, c'était « moi, je sais ce qui se passe, le reste, ça m'est égal ». Et ça, ce fut très mauvais. Ça a été contre-productif, parce que quand on s'est rendu compte qu'il nous fallait expliquer ce qui se passait, Donc au début, si vous voulez, on a fait dans l'émotionnel, hein, on a fait beaucoup dans l'émotionnel, et puis ensuite, l'émotion, toute légitime qu'elle fût, ne pouvait pas tout expliquer. Il fallait passer aux choses sérieuses et dire voilà ce qui s'est passé. Donc bon, on a eu beaucoup d'opposition, mais nous avons eu beaucoup d'amis aussi qui ont compris, qui sont venus. Je me souviens de l'un d'eux, c'était Monsieur André Soulier, qui était donc à la commission juridique au Conseil de l'Europe et qui avait auditionné donc plusieurs personnes, dont moi, en tant que société civile, hein, parce que je n'avais plus de mission officielle. Et il avait essayé de comprendre, c'était surtout après les massacres de population. Et il y avait Cohn-Bendit et à l'époque Robert Ménard, qui est né en Algérie. Hein, Robert Ménard qui était...
Président de Reporters sans frontières, aujourd'hui devenu maire frontiste assumé.
De Béziers, oui. Mais nous ne savions pas tout ce côté-là. Donc il se présentait comme le grand défenseur, n'est-ce pas, de la liberté d'expression, des libertés d'une manière générale. Et donc il avait fustigé notre combat en disant non, c'est des suppôts du pouvoir. Et je n'avais pas senti chez M. Soulier un grand soutien. Nonobstant, si vous voulez, une certaine sympathie, une certaine disposition à comprendre, à vouloir comprendre. Et puis, il s'est trouvé qu'il est arrivé en Algérie dans le cadre parlementaire. Il avait été invité donc par le Conseil de la Nation, qui est le Sénat français, si vous voulez. Et je découvre un tout autre monsieur qui dit, en Algérie, nous avons absolument compris ce qui se passe chez vous et c'est fini les discours qui parasitent donc cette réalité, nous ne les acceptons plus, etc. Bon, et, si vous voulez, il y a eu des moments très très difficiles en ce sens où il y a eu une grande solitude, il faut le dire. Hein. Mais je l'avoue, encore une fois, permettez-moi de me répéter, au début, on croyait qu'on était les plus forts, les meilleurs, et que bon, nous, on se comprenait, donc il n'y avait pas besoin d'expliquer aux autres.
Et que la vérité allait être révélée. Mais aujourd'hui, en 2015, à Alger, en Algérie, est-ce qu'on sait la vérité sur le nombre des victimes? Est-ce qu'on peut énoncer cette vérité? Est-ce qu'elle est enseignée à l'intérieur des écoles? On sait que le gouvernement algérien n'a pas permis l'énonciation de l'approche de cette vérité. Pourquoi, à votre avis, Leïla Eslaoui?
Écoutez, bon, on donne le chiffre de 200 000 victimes. Que compte-t-on à l'intérieur de ce chiffre? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si c'est simplement les victimes du terrorisme, si ce sont, s'il y a également les autres. Je ne peux pas vous le dire. On dit toujours 200 000 victimes. Bon. Et aujourd'hui, ça ne peut pas être enseigné à l'école, on ne peut pas en parler, puisqu'il y a eu cette décision en 2005-2006 d'amnistier, il n'y a pas d'autre mot, d'amnistier les anciens terroristes et islamistes, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont commis des exactions, ceux qui se sont dit même fiers. L'un d'eux a dit « Je suis très fier de ce que j'ai fait ». Il s'appelle M. Madani Mzrag. Il a dit « Je suis très fier de ce que je fais et ne m'appelez pas le repenti. Je ne suis pas un repenti. » Voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a jamais eu de repentance, d'ailleurs. Il n'y a jamais eu. Nous ne les avons jamais entendus dire, par exemple, à la télévision ou à la radio, « Oui, je reconnais, j'ai été, par exemple, induit en erreur, j'étais un égaré. » Non, il n'y a pas eu de cela du tout. Et ces gens-là, donc, par le biais du décret sur la charte dite de réconciliation nationale, que j'appelle, moi, le décret de l'impunité totale, se sont vus totalement blanchis. Mieux encore, des rumeurs disent qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont été, et là ce n'est pas une rumeur, pour certains réintégrés à leur poste de travail, à croire que les années qu'ils ont passées à la montagne ou dans la montagne, c'était des années sabbatiques. Hein. C'est incroyable ce qui se passe chez nous. Donc je ne m'attends pas du tout à ce que ça soit enseigné à l'école. L'unique chose que je puisse dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment dommage que toutes ces années si vous voulez, de lutte antiterroriste, de lutte anti-islamiste, parce que c'était dur. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où on pensait que l'Algérie allait plonger dans le chaos. Il y a eu des jeunes filles qui ont été assassinées simplement parce qu'elles refusaient de porter le voile intégral ou le hijab. Donc, si vous voulez, ça a été dur. Et de se dire, bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a absolument rien. C'est fini. C'est une amnésie collective imposée. Donc, on ne s'attend pas du tout. En tout cas, moi, je ne m'attends pas à ce que cela soit enseigné à l'école. Je vais vous dire mieux. Il faudrait déjà que l'écriture de la première page de l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire celle de la guerre de libération, soit écrite. Et bien écrite, pas la version officielle. Donc, si vous voulez, la page sur le terrorisme, l'unique danger que cela puisse engendrer, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite, c'est toute cette violence qui est engrangée des deux côtés et qui n'est pas prise en charge, parce que ce n'est pas parce que vous imposez l'amnésie que l'amnésie aura lieu. Au contraire, je pense que s'il y avait eu des procès, quand bien même il n'y aurait pas eu de procès, s'il y avait eu simplement, à l'instar du Maroc, pour d'autres raisons, hein, une commission de vérité et justice, c'est-à-dire voir celui qui a tué, se souvenir de son visage, dire « Ah bon, il a quand même reconnu, il a demandé pardon, etc. » Bon, c'est énorme comme travail. C'est énorme comme travail sur le plan de la psychothérapie, d'abord. Là, vous engrangez de la violence. Pour ma part, je n'en ai pas. Hein. Ça, je vous rassure, je n'en ai pas du tout. Mais la haine est là. La haine est là. Nous n'avons pas été reconnus en tant que victimes du terrorisme islamiste. Par contre, eux ont été totalement blanchis. C'est pas juste. C'est pas juste.
Ils ont gagné.
Quelque part, oui. Quelque part, oui. Ils n'ont pas gagné dans le sens où, si vous voulez, militairement, ils ont été défaits. Ils ne se sont pas emparés de l'État. Ils n'ont pas plongé l'Algérie dans le chaos comme ils entendaient le faire. Mais politiquement, nous n'avons pas gagné. Et c'est pour ça qu'hier, si vous voulez, ils se sont encore permis de sortir. Bon, sur le plan, si vous voulez, des libertés d'expression, des libertés individuelles, il n'y a pas de souci. Tout le monde a le droit d'exprimer. Je ne pense pas qu'il faille interdire ad vitam aeternam ces marches et ces rassemblements. Ça ne sert à rien. Mais leurs slogans, c'était les mêmes que ceux que nous entendions en 90. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Au-delà, si vous voulez, de cette charte dite de réconciliation nationale et qui ne réconcilie personne avec personne, y a les enfants, il y a les petits-enfants. Bon. Je pense qu'au sein des familles des uns et des autres, on doit raconter des choses sur les forces de sécurité quand il s'agit d'un enfant terroriste ou d'un frère de terroriste, et dans les familles des victimes, la même chose. On doit raconter, donc si vous voulez, c'est dur. Je ne sais pas comment sera l'avenir de l'Algérie, sur le plan de la violence, hein, parce qu'il y a énormément de violence. Là, ça, je l'ai constaté, la violence verbale d'abord, les gens sont très... Vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, on ne discute pas, on s'insulte et on insulte. Et puis, bon, pour un oui, pour un non, on se met en colère, on frappe. Ça, c'est toute cette violence engrangée et qui ne sort pas, quoi. Je pense qu'il y a une psychothérapie générale à entreprendre, mais là, je vous rapporterai une petite plaisanterie faite par mon fils. Après la mort de son papa, je lui ai dit et j'étais sincère, hein, je lui ai dit, écoute, moi je suis ta mère, il y a certainement des choses que tu ne peux pas me dire ou que tu ne veux pas me dire, et je le comprends fort bien. Donc, tu vas voir une personne capable de t'aider pour cela. Et il me dit, qui? Les psychiatres et les psychologues algériens, maman? Je lui dis, par exemple. Je lui dis, mais sans aller à la psychiatrie, un psychothérapeute. Il me dit, mais ils ont vécu exactement les mêmes événements que nous, maman. Donc eux-mêmes ont besoin de psychothérapie. Voilà où on en est. C'est une psychothérapie générale. Hein. Voilà.
Ben c'est peut-être pour ça que vous faites une forme de psychothérapie en écrivant des livres de réconciliation avec vous-même, de très beaux livres. Un livre que vous avez consacré à votre mère pour tout ce que tu m'as appris, et puis un livre que sous forme de lettres qui est consacré au dialogue que vous avez avec votre petite
Oui,
fille.
oui. Alors, si vous voulez, ce dialogue avec ma petite fille, c'est pas tout à fait dans une psychothérapie. C'était simplement pour lui laisser, le jour où elle sera en mesure, n'est-ce pas, de lire, parce que c'est encore un tout petit bout de chou, lui laisser une confidence que je lui fais à elle, c'est que cet enfant m'a aidée vraiment à avancer. Bon, j'étais vraiment dans cette histoire qui m'était arrivée tout en avançant. Hein, mais cet enfant, quand elle est née, je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est du bonheur, c'est du bonheur parce que elle est un petit peu la béquille sur laquelle je vais me tenir, parce que là maintenant, elle a besoin de moi. Pour tout ce que tu m'as appris, c'était un hommage surtout que je voulais rendre à maman, surtout parce qu'elle fut une femme exceptionnelle en son temps, issue d'un milieu horriblement conservateur, je dirais même moyenâgeux, et qui a dit, en regardant tout ce petit monde et ses hommes, parce qu'il y avait son père, il y avait ses frères, après son veuvage, elle avait 39 ans. Et elle a dit, mes filles feront des études, mes filles ne se voileront pas. Et surtout, elle a dit, et j'habiterai seule et je serai la seule tutrice de mes enfants. Alors imaginez-vous, en 52, un grand-père, donc son père autoritariste comme pas possible, ne tolérant absolument aucune opposition, aucun avis contraire. Des frères, bien sûr, éduqués dans le même moule, et un petit bout de femme de rien du tout, parce qu'elle faisait 1,65 m, qui regarde tout son petit monde et qui dit non, je resterai seule tutrice de mes enfants. Et donc, si vous voulez, pour moi, elle a été vraiment un exemple fabuleux. Et ma sœur a ouvert la voie, parce que nous sommes deux filles, ma sœur a ouvert la voie en n'étant pas voilée, en faisant des études, et moi après, quoi. Et c'était une dame, bon, elle était née en 1912, qui disait, faites surtout des études parce que c'est le savoir qui est une arme pour la femme. Le mari, il vient pas, bof, on n'en a rien à faire. Donc c'est merveilleux, si vous voulez. C'était surtout pour cela que je voulais la faire vivre entre guillemets, quoi. Voilà.
Ben merci beaucoup, Léla
C'est moi qui
Eslaoui-Hamedi.
vous remercie.
Alger, ça continue demain. Merci à Clémence Bonfils, Véronique Villa, Didier Lagarde, Corinne Amar, Vincent Lecomte, Élodie Royer. Vous écoutez France Culture dans quelques instants, les ateliers de la nuit.